15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie d'être là en direct avec vous et de retour en studio pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Je suis tellement contente, contente aussi de retrouver mon acolyte qui est là aussi pour m'aider en studio à vous éclairer, à prendre soin de vous. Il est à bonne distance évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, c'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver à distance, vous l'avez dit. Bien sûr. Porte des masques dans les studios et en tout cas on fait attention, mais c'est vrai que de se voir, de reprendre un peu un semblant de vie, ça fait plaisir.
Merci Jimmy. Allez, aujourd'hui, pour débuter cette émission, nous allons commencer par faire un point sur le travail des fameuses brigades sanitaires. Ces travailleurs de l'ombre qui contribuent à traquer et couper la progression du virus depuis la sortie du confinement. Pour en parler dans le détail et comprendre comment la stratégie tracée, dépistée, isolée fonctionne vraiment, nous aurons en ligne Pierre Albertini, le directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie à Paris. Ensuite, dans la deuxième partie de cette émission, vous le savez, on parle plutôt de bien-être aujourd'hui, place au monde merveilleux du gras. C'est le titre du livre de la médecin nutritionniste Laurence Plumet. Le gras, la graisse, nos petits et gros bourrelets, elle les a étudiés scientifiquement et vous verrez que même si, surtout à cette période, on a tendance à les traquer eux aussi, ils sont quand même utiles au bon fonctionnement de notre organisme. Et puis, pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, avec qui aujourd'hui il sera question de fantasmes.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, nous accueillons par téléphone Pierre Albertini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Et avec vous, donc, on va parler du fonctionnement des brigades sanitaires de l'assurance maladie, brigades mises en place depuis le 11 mai. Rappelez-nous, s'il vous plaît, d'abord, quelle est leur mission et après, on va rentrer un peu plus dans le détail.
Oui, écoutez, tout d'abord, si vous me le permettez, en quelques mots, situer ce dispositif dans la stratégie de déconfinement arrêtée par le gouvernement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un dispositif qui comporte trois volets, tester, tracer, protéger et isoler. Donc, en clair, il s'agit d'identifier et de mettre à l'isolement le plus rapidement possible les personnes potentiellement malades et contagieuses qui sont en contact avec d'autres, et il s'agit de casser la chaîne de contamination. Donc ce dispositif de contact tracing a été mis en place par l'assurance maladie, il joue un rôle pivot dans cette organisation. Donc il permet d'effectuer un travail systématique de recensement pour chaque personne détectée positive au Covid-19 de l'ensemble des personnes avec qui elle a été en contact rapproché.
Oui.
Cela permet que ces personnes soient immédiatement appelées pour leur signaler qu'elles ont été exposées au virus, et qu'elles doivent par précaution rester confinées chez elles et aller se faire dépister.
Pierre Albertini, on va rentrer dans le détail juste après. D'abord, qui c'est qui les compose, ces brigades? Alors, est-ce que ce sont des agents habituels de vos rangs ou est-ce que vous avez dû recruter pour cela?
Non, ce sont des personnels de l'assurance maladie, des personnels que nous avons recrutés et formés sur la base du volontariat. Ce sont des personnels qui, en général, ont une activité qui est proche de ce type de fonctions. Ce sont par exemple des métiers de téléconseiller, des métiers de conseiller d'assurance maladie ou de délégué d'assurance maladie, donc des personnes qui sont en contact avec les professionnels de santé. Donc ce sont des personnes que nous avons choisies sur la base du volontariat et que nous avons formées pendant le temps nécessaire, je dirais, pour s'approprier la démarche.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et justement, vous dites que vous les avez formées, mais formées à quoi précisément et pendant combien de temps?
Alors, c'est une formation qui a été élaborée au niveau national, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un dispositif national. C'est une formation donc qui a duré à peu près 2 jours. Alors, pour la partie théorique, je dirais, c'est une formation donc qui reposait sur un certain nombre d'outils, des supports, des tutoriels, des éléments, je dirais, classiques en matière de formation et, par ailleurs, des mises en situation. Donc, nous avons créé des mises en situation et je dirais que la vraie formation a débuté le 13 lorsqu'elles ont été confrontées à des situations réelles. Donc, ces premières journées ont été très riches d'enseignement et c'est encore une fois, ce sont des personnes qui ont une habitude d'avoir des relations soit avec des professionnels.
J'allais vous le dire, Pierre Albertini, j'imagine que pour être donc agent dans une de ces brigades, c'est quand même primordial d'avoir un espèce de, je sais pas, de profil de conseiller clientèle plus, d'autant qu'il faut quand même être un peu formé au sanitaire, enfin, et puis avoir aussi, j'imagine, un peu d'empathie, enfin, ça peut engendrer du stress, ces conversions-là, non, j'imagine?
Bien sûr. Donc, nous avions également des personnels, je dirais, soignants, des médecins, des infirmiers. Et à Paris, nous avons également la chance de gérer des centres de prévention où nous avons des personnels soignants. Donc, je dirais, nous avions un ensemble de collaborateurs qui étaient tout à fait capables d'assurer ce rôle. Et effectivement, ça requiert des qualités particulières, ouais, d'empathie, d'écoute. Et je le dirai pas long tout à l'heure, mais les contacts que nous avons eus sont dans leur immense majorité des contacts tout à fait positifs, en tout cas perçus comme tels par les personnes que nous avons contactées.
Jimmy.
Une fois qu'un patient est suspecté Covid et si jamais le diagnostic revient positif, comment est-ce que vous avez l'information? Le médecin ne vous contacte pas directement, il rentre dans une base de données et puis vous occupez des démarches ensuite?
Voilà, alors concrètement, le dispositif, hein, si on le résume à l'essentiel, repose sur trois acteurs clés. Les professionnels de santé, au premier rang desquels on trouve les médecins généralistes, mais également les médecins hospitaliers, l'assurance maladie et les agences régionales de santé. Donc depuis le 13 mai, donc il est demandé à chaque médecin qui prend en charge un malade Covid-19 de recenser le plus vite possible l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec lui au cours de ces derniers jours et au minimum le cercle familial. Donc les patients symptomatiques, ceux qui présentent des signes évocateurs de la maladie, qui consultent donc le médecin, alors ça peut être en présentiel au cabinet du médecin, mais ça peut être également en téléconsultation, donc se voit prescrire un test de dépistage, le dépistage RT-PCR, c'est un test virologique.
Dans le nez, donc.
Et pris en charge. Pardon ?
Avec prélèvement nasal, je précisais juste pour nos auditeurs, oui.
C'est ça, c'est bien le test virologique avec prélèvement nasopharyngique. Il est pris en charge, donc à 100% par l'assurance maladie. Si le résultat du test est positif, le médecin retrace l'ensemble de l'historique des contacts rapprochés que le patient a eu à compter de 48 heures avant l'apparition des premiers symptômes.
D'accord.
Donc, le médecin saisit ensuite dans une application que nous avons créée pour cette opération qui s'appelle Contact Covid. C'est un système d'information dédié, sécurisé, qui est accessible pour les médecins dans leur portail que l'on appelle AmeliPro. Et donc, il recense le nom des personnes concernées ainsi que leurs coordonnées lorsqu'il le peut. Et c'est à partir de ce stade, une fois que le médecin a réalisé ce travail, qu'il passe le relais à l'assurance maladie.
Donc il faut que le résultat soit déjà positif pour que ça arrive chez vous. Il faut qu'on soit sûr, il faut
Absolument.
Qu'il y ait la confirmation. Et ce que je voulais dire aussi, parce que ça a inquiété pas mal certains de nos auditeurs, et puis certains Français tout court, est-ce que tout ça, toutes les informations dont on vient de parler, on passera dans la deuxième partie au cas contact, mais est-ce que tout ça est bien sécurisé? Il n'y a pas un risque que ces données, puisqu'elles sont transmises à vos agents, je sais pas, sortent quelque part, fuitent quelque part, enfin tout ça, il y a le secret médical dans ce dispositif?
Absolument, c'est un dispositif qui est hautement sécurisé. Nous avons également pour nos collaborateurs des règles qui sont des règles, je dirais presque ancestrales, que l'assurance maladie applique, hein, puisque nous avons connaissance d'informations de santé. Donc c'est le respect du secret médical et le respect du secret professionnel. Et tous nos agents, en particulier ceux qui travaillent dans ces plateformes, sont soumis à ces règles.
Donc c'est secret professionnel et secret médical pour vos agents, c'est ça?
Bien sûr. Et interdiction évidemment de divulguer des informations à caractère médical.
Et est-ce que le patient peut s'opposer à ça? Est-ce que le médecin a l'obligation justement de mettre ces données dans la base de l'assurance maladie?
Alors, les cas contacts peuvent... le patient peut s'opposer à ce que les cas contacts soient mentionnés dans la base de l'assurance maladie. Lui, sa situation est enregistrée dans la base de l'assurance maladie, mais il peut s'opposer à donner les coordonnées des cas avec lesquels il était en contact. Mais une fois qu'il a fait ça, le médecin, donc le passage, comme je vous le disais, se fait, le relais se fait automatiquement avec l'assurance maladie, avec l'outil hein, que nous avons construit, et il va permettre au deuxième niveau, à l'assurance maladie, de recenser, au-delà du cercle familial, les personnes qui ont été en contact avec le patient.
Merci Pierre Albertini. On n'en a pas terminé avec vous, on va vous retrouver dans un instant.
Europe 1.
Dans quelques minutes, sans rendez-vous, votre émission Santé revient. Nous allons continuer à parler du fonctionnement des brigades sanitaires. Une fois le patient zéro contacté, c'est l'interrogatoire qui démarre. Alors combien de personnes a-t-il croisé d'assez près pour qu'il y ait risque de contamination? Comment réagissent ceux qui sont contactés derrière et qui apprennent qu'ils sont peut-être eux aussi touchés par le virus? Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, Pierre Albertini. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Pierre Albertini, avec vous on décortique donc aujourd'hui le travail des brigades sanitaires. Une fois que le patient zéro est contacté, on vient d'en parler, c'est donc l'interrogatoire qui commence. On leur pose quoi comme question à ces patients zéro? C'est une véritable enquête policière. Ça peut durer combien de temps d'ailleurs au téléphone, cette première enquête, on va dire?
Alors, la moyenne de la conversation, c'est autour de 20 minutes. Alors évidemment, ça n'a pas du tout un caractère policier. Néanmoins, nous essayons d'obtenir des renseignements assez précis pour savoir effectivement si la personne a été en contact avec d'autres personnes et dans quelles conditions elle l'a été, parce qu'il faut effectivement que le contact soit un contact, je dirais, significatif. C'est par exemple une personne qui partage le même lieu de vie que le cas confirmé, ou une personne qui a eu un contact direct à au moins un mètre et pendant
oui,
une durée.
C'est pas j'ai croisé mon voisin à 6 mètres voilà. Ou boîte aux lettres, c'est pas ça,
non,
ça compte pas.
Les personnes croisées dans l'espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contact. Donc il y a effectivement tout un référentiel très précis qui nous permet, s'il s'agit bien d'une personne qui a été en contact avec la personne contaminée.
Jimmy ?
Et les contacts remontent à combien de temps ? On s'arrête à combien de jours précédemment ?
Alors, nous remontons à 48 heures avant les premiers signes, ou lorsqu'il s'agit d'une personne asymptomatique, c'est 7 jours avant l'interrogatoire. Mmh.
7 jours, ça fait un sacré nombre de contacts, j'imagine, à recenser. On peut trouver combien de contacts au maximum ? Je ne sais pas si vous avez des cas qui vous reviennent en tête.
Alors, nous avons en moyenne 4 à 5 contacts, mais ça peut aller jusqu'à une dizaine de contacts. Nous avons recensé des situations où il y a eu plus d'une dizaine de contacts. Et évidemment, nous avons patiemment pris contact avec elle et nous avons tracé l'ensemble des personnes concernées.
Et il n'y a pas des patients zéro qui ne se rappellent pas, parce que c'est vrai que parfois on se rappelle même pas ce qu'on a mangé la veille. Alors de là à se rappeler qui on a croisé, si ce sont des personnes qui travaillent, ils ont croisé beaucoup de collègues, par exemple. Enfin, il y a des gens qui ne se rappellent pas, donc vous devez en louper quand même, forcément, non?
Alors c'est effectivement des catégories que nous avons rencontrées, mais la personne dans ces cas-là a la possibilité de nous rappeler et éventuellement de nous donner des personnes qu'elle aurait oublié de nous signaler dans le premier contact. Mais en règle générale, c'est un entretien qui est long, donc nous suscitons un certain nombre de réponses et les personnes...
Et ça leur revient en mémoire en général, d'accord.
Voilà, exactement, parce que elles ont en général, je dirais, une vision assez précise des personnes qu'elles ont rencontrées au cours des jours qui précèdent.
Jimmy ?
Et justement, quand vous appelez justement ces cas contact, est-ce que vous avez des réactions particulières ? Je suppose que ça va être un choc lorsqu'on dit aux gens, vous avez croisé une personne malade du Covid et vous êtes potentiellement vous aussi porteur, en tout cas malade. Vous avez eu des réactions un peu de panique où les gens malgré tout arrivent à être sereins et à comprendre qu'il faut respecter certaines règles?
Écoutez, très, très sincèrement, nous n'avons pas eu ce type de situation. Nous avons eu effectivement quelques interrogations, voire quelques situations qu'on pourrait qualifier de blocage. Mais dans l'immense majorité, les personnes que nous avons contactées se sont tout à fait prêtées au jeu, si je puis dire. Donc, elles ont été convaincues, en tout cas nous l'avons perçu comme ça, de l'utilité et de l'intérêt du dispositif, qui est un dispositif qui vise avant tout à protéger leur entourage, protéger leur relation. Et encore une fois, depuis 10 jours que le dispositif est, un peu moins 10 jours que le dispositif est en place, nous n'avons pas rencontré de cas de refus.
Et donc il n'y a pas de refus, pas de panique jusque-là, parce que donc vos agents sont capables aussi d'empathie, vous l'avez dit, d'écoute, j'imagine qu'ils savent rassurer les gens sûrement. La marche à suivre derrière, c'est de dire à ces gens-là qui sont des cas contacts, allez faire un test. Là aussi, il n'y en a aucun qui a refusé d'aller faire un test derrière, non?
Alors, nous proposons effectivement à ces personnes d'aller faire un test. D'ailleurs, le fait que nous les inscrivions sur l'application leur donne le droit de réaliser un test qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Ça leur donne également le droit d'aller se fournir en masque chez le pharmacien. Nous avons évidemment un peu de décalage entre la date du contact et le test réalisé, mais nous avons la conviction que les personnes vont y aller parce qu'elles ont en général bien compris l'intérêt de cette opération de se faire tester à la fois pour elles-mêmes et pour les personnes qui sont dans leur entourage.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et justement, quand elles doivent se faire tester, dans quel délai elles doivent y aller? Je suppose que si elles y vont tout de suite, c'est un peu trop tôt. On attend avant peut-être que des symptômes puissent se développer ou en tout cas que l'incubation soit suffisamment importante.
Alors, la personne présente des symptômes, donc il est important qu'elle y aille tout de suite. Lorsqu'elle est asymptomatique, donc on propose d'attendre 7 jours avant de réaliser le test.
Et en attendant de faire le test, elles doivent s'isoler et du coup, et avoir un arrêt maladie, du coup, est-ce qu'on leur donne un arrêt de travail?
C'est tout à fait possible si elles sont en situation de travail. Nous avons la possibilité de leur délivrer un arrêt de travail. Mmh. C'est un arrêt de travail qui est délivré par le service médical de l'assurance maladie et donc elles ont la possibilité de se protéger avec cet arrêt de travail.
Et donc la clé de la réussite, si on comprend bien tout le dispositif, c'est vraiment l'hyper-réactivité de toute cette chaîne, hein, c'est ça la clé, hein ?
C'est exactement ça. Le caractère, je dirais, immédiat ou presque immédiat de la réalisation du test conditionne hein, cette fameuse rupture de la chaîne de contamination qui est la clé de voûte de ce dispositif. Donc l'ensemble des acteurs de cette chaîne doit être réactif. Les médecins, bien sûr, les laboratoires et bien sûr les personnes concernées qui doivent immédiatement ou alors dans les délais que j'ai indiqués, réaliser les tests.
Pierre Albertini, pour terminer, pour avoir une idée un peu de votre travail, au moins donc à Paris, hein, puisque votre brigade elle est la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en moyenne, vous avez fait combien de traçages? Est-ce que vous avez au moins un chiffre qui peut nous donner une idée du travail accompli par vos équipes depuis le 13 mai?
Alors, depuis le 13 mai, nous avons pratiquement 260 personnes que nous avons pu tracer. Alors, c'est probablement un petit peu moins que ce que nous nous attendions à avoir. Alors, il faut peut-être y voir l'effet bénéfique, je dirais, de la période de confinement dans laquelle nous étions il y a encore une dizaine de jours. Donc, mais nous sommes organisés, évidemment, pour faire beaucoup plus, si je puis dire, parce que nous sommes sortis, comme vous le savez, depuis le 11 mai de la période de confinement et nous attendons peut-être d'avoir un nombre de situations plus importantes. Donc notre organisation, elle est prête à répondre
monte en puissance si besoin. Ouais.
À des proportions plus importantes de contact tracing.
Très bien, merci beaucoup Pierre Albertini d'avoir été avec nous pour nous expliquer en détail donc le fonctionnement des brigades sanitaires. Bonne continuation et merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre encore à quelques-unes de vos questions, celles que vous nous laissez sur le répondeur d'Europe 1. On y vient dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous.
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, en studio, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. À présent, Jimmy, on va prendre le temps. On est à côté l'un de l'autre, c'est plus simple hein, pour se parler. On est à côté, donc on va répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 qui sont aussi avec nous, évidemment, en direct. Et donc là, on va prendre une question au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. C'est la question de Bertrand. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je suis papa d'un petit de 9 ans et je voulais savoir quand je l'emmenais faire les courses avec moi s'il devait ou pas porter le masque. Voilà, si c'était important ou pas par rapport à son âge. Voilà, merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Bon, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de parents se posent. Jimmy, les enfants, quid
oui, clairement,
du
oui,
masque
oui. Dans le doute, mettez des masques, surtout que 9 ans, ils sont en capacité de comprendre pourquoi il faut le mettre, comment le mettre et de respecter probablement le port du masque pendant quelques minutes, voire une heure. Personnellement, j'ai un enfant de 7 ans, quand on fait les courses, alors déjà, il faut essayer d'éviter de les amener dans des lieux clos,
maximum,
parce que finalement, le virus circule dans les environs, dans les lieux clos, là où la distanciation physique n'est pas possible. Donc,
si
on peut éviter, mieux vaut. Parfois, on n'a pas le choix. Et donc, mon fils de 7 ans, je lui dis de porter un masque, il comprend très très bien.
Vous mettez n'importe quel masque ou il y a des masques spéciaux pour les enfants?
Alors, il y a les masques chirurgicaux qui sont un peu grands, ils sont pas très bien taillés, mais il faut prendre peu importe, mieux vaut un masque pas très bien taillé que pas de masque. Certains sont adaptés, mais honnêtement, j'ai eu du mal à en trouver.
J'ai vu, c'était difficile aussi.
Donc, porter le masque à un enfant, je pense que c'est nécessaire. Peut-être dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on pourra assouplir les règles, mais oui, c'est
en
mieux.
En Espagne, je crois que dès 6 ans, c'est obligatoire dans tout l'espace public, ce qui n'est pas le cas en France.
Ce qui n'est pas le cas, puisque l'espace public, eux, chez eux, comprend aussi l'air extérieur, et donc ça, c'est pas forcément nécessaire. Sachant que les enfants tombent malades à travers des adultes, la transmission se fait des parents vers les enfants.
Surtout, oui, bien sûr.
Et donc, probablement qu'il y a un risque, donc mettez un masque autant que possible, et puis peut-être qu'on cet été ou à la rentrée, on arrêtera tout ça.
Très bien, on va passer, Jimmy, à une autre question, encore une sur les risques chez le coiffeur, parce que je dis encore une, on en a eu une hier aussi, là c'est la question d'Isabelle qui nous a écrit pour nous demander si les sèches-cheveux, et donc l'air qu'ils diffusent dans les salons de coiffure, ne risquent pas de disperser encore plus le virus dans l'air intérieur, Jimmy.
Alors c'est la question de la transmission aérienne, il n'y a pas de preuve que le virus puisse être transporté par le sèche-cheveux, par la climatisation, par un ventilateur, donc il n'y a pas de sur-risque. Néanmoins, chez le coiffeur, c'est un environnement clos, vous êtes proche des gens et donc il y a un risque malgré tout. Alors il faudrait vraiment un cocktail extraordinaire pour tomber malade avec un sèche-cheveux, que quelqu'un vous mette le sèche-cheveux sous la bouche, que vous toussiez à ce moment-là et que quelqu'un soit en face de vous.
Puis aujourd'hui, tout le monde est masqué dans un salon, il y a des conditions hyper strictes
de
sécurité.
Et on évite d'y aller si on est malade de toute façon.
De toute façon, si tout le monde porte des masques, en réalité, il n'y a pas tellement de virus qui risque de circuler, on est d'accord.
Exactement.
Donc, et même sèche-cheveux ou pas, il n'y a
pas de... Les études montraient que si 85% de la population portait des masques et respectait les mesures barrières, il n'y aurait plus d'épidémie. Donc s'il y a un masque, en principe, il n'y a pas de risque. Donc les sèche-cheveux, c'est vraiment très à la marge, et donc on peut dire non, pas de risque avec ça.
Très bien, merci Jimmy. Alors on a encore une question qui nous a été posée sur le répondeur d'Europe 1, le 39-21, c'est la question de Loïc.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que j'avais une question concernant le coronavirus pour changer. J'ai eu des symptômes moi il y a quelques temps. Ma femme l'a eu également, à des degrés un petit peu plus graves. Elle a été hospitalisée notamment. Moi j'ai pas eu trop de symptômes graves. Je voulais savoir si elle par contre était immunisée à un degré plus important que moi du coup. Merci à vous, au revoir.
Alors Jimmy, c'est vrai qu'on en a parlé hier de l'immunité avec le professeur Alain Fischer. Les gens qui ont été moins malades, moins de symptômes, sont peut-être moins bien immunisés. Sa femme a été hospitalisée, a priori, une forme grave.
Forme grave, donc ouais. Après moi, ça en est sorti, tant mieux, mais ça veut dire qu'elle a peut-être développé une immunité peut-être un peu plus importante. Ça pose aussi la question des personnes qui vont être asymptomatiques, les 50% qui vont contaminer des personnes. Est-ce qu'elles vont être protégées? On ne sait pas. Donc peut-être que plus vous avez des symptômes, plus vous êtes protégé, mais
c'est
on ne sait pas combien de temps. Même si on a l'impression qu'il n'y a pas de deuxième infection, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il va falloir peut-être attendre encore un petit peu pour en savoir plus.
En tout cas, on n'est sûrement pas tous immunisés de la même façon en ayant fait la maladie. C'est-à-dire que les symptômes, ça détermine un petit peu quand même le nombre d'anticorps et leur qualité aussi, je crois.
Exactement. Ouais. Et donc, pour l'instant, une zone de flou, même si on peut dire que oui. Mais on s'est aussi tellement trompé que c'est compliqué de dire un vrai oui affirmatif, même si ça a l'air d'être plutôt le cas.
Très bien. On va prendre une dernière petite question. C'est celle d'Hugo, qui a 39 ans, qui vit en Savoie, qui s'interroge sur l'eau, Jimmy. Il dit qu'on a trouvé, ce qui est vrai d'ailleurs, des traces de virus dans les eaux usées. Donc il demande s'il y a un risque du coup avec l'eau potable, celle qui sort des robinets.
Alors l'eau usée, c'est celle où on fait caca, tout simplement. Vu que les personnes malades excrètent du virus dans les selles, on peut les retrouver dans les circuits d'eau usée. En revanche, dans le circuit d'eau potable, il n'y a aucun risque. D'autant plus qu'il n'y a pas de transmission par l'eau du coronavirus. Virus, c'est que l'eau potable est traitée, c'est le médicament le plus sûr au monde. Il y a un traitement à base d'ozone, à base d'ultraviolet et de chlore, et le chlore détruit le virus. Donc on n'a aucun risque, à l'heure actuelle, on peut le dire sereinement, à avoir le coronavirus en buvant de l'eau du robinet. Donc
Vous la buvez, vous hein.
Je la bois, donc pas de raison particulière d'acheter des bouteilles d'eau en supermarché.
Très bien, à part si ça vous fait plaisir. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Ce rendez-vous revient dans quelques minutes, juste après, avec la médecin nutritionniste Laurence Plumet. Nous vous proposons une sorte de voyage, un voyage scientifique dans le monde merveilleux du gras. Car oui, vous allez voir, nos bourrelets peuvent aussi avoir des bons côtés. Ça vous intrigue, hein, je suis sûre. Alors restez avec nous sur Europe 1. De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. À présent, nous sommes rejoints en ligne par le docteur Laurence Plumet. Bonjour.
Bonjour.
Ah, vous êtes de bonne humeur vous aussi, ça fait du bien hein, de vous entendre. Vous êtes médecin nutritionniste, surtout quand on va parler de gras, on se dit tiens, c'est bien qu'on ait du good feeling parce qu'il y a certains qui grimacent là déjà, je les sens.
On va les détendre.
Justement, vous êtes donc médecin nutritionniste et auteur donc du livre Le Monde Merveilleux du Gras aux éditions Erol, livre dont on va parler tout de suite, dans lequel vous commencez justement par donner un petit nom au gras, puisque vous l'appelez Robert. Pourquoi Robert?
Robert parce que, comme j'avais prévu des illustrations dans le livre, je me disais que habiller un adipocyte, qui est la petite cellule graisseuse, avec une petite jupe et des couettes, c'était plus compliqué quand même que d'imaginer un garçon en neutre, c'est mieux. Donc voilà, Robert. Et puis Robert, on connaît déjà les petits Robert dans l'organisme, donc il a des antécédents et donc je me disais que ça lui collerait parfaitement.
Jimmy, à vous.
Et justement, à quoi ressemble ce gras? On a l'impression qu'il serait quoi, blanc, jaune? C'est peut-être pas forcément ça.
Alors, si, il est jaune, enfin, c'est la gouttelette graisseuse qui habite ces milliards d'adipocytes et qui donne cette couleur jaune au gras. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que la couverture du livre soit bien jaune, parce que c'est à la hauteur de la couleur naturelle de ce gras. Et d'ailleurs, les chirurgiens le savent bien, parce que quand ils font une lipectomie et qu'ils aspirent la graisse du bourrelet, eh bien, on voit bien qu'il y a un magma liquide et jaune.
Bon, là, jusque-là, ça a l'air un peu dégoûtant, mais vous allez... on va essayer de ne pas faire fuir tout le monde, justement, parce que vous avez plein de choses passionnantes à nous dire. Alors, on a une dizaine de kilos de gras de réserve en temps normal. Oui. C'est ça, c'est normal, c'est 10 kilos pour tout le monde en moyenne, on va dire.
Oui, parce qu'il faut vraiment arrêter de considérer le gras comme quelque chose de nuisible, qui n'a rien à faire dans notre corps, qui est agressif et dont il faut absolument se débarrasser. Il faut réaliser.
Vous verrez Jimmy, là, il est en train de se caresser les bourrelets, il est tout content, il s'est dit, oh là là, vous voyez, j'avais raison.
Oui, mais... Il faut considérer le gras comme un organe, comme au même titre que le foie, le cœur, les reins, le gras, c'est un organe qui nous habite depuis notre naissance, qui nous accompagne toute notre vie et qui nous accompagnera jusqu'au bout. Et ce gras, il est utile. Et c'est la raison pour laquelle, chez les femmes, il va représenter à peu près 20-25% du poids du corps d'une femme, soit une dizaine, entre 10 et 15 kilos, pour une femme qui pèse à peu près 60 kilos. Et pour un homme, l'homme a besoin de moins de gras que nous, pour une raison toute simple. C'est que, génétiquement, la femme est prédisposée à assurer la survie de l'espèce.
Bien
donc,
sûr.
Avoir des grossesses, à mettre au monde un enfant. Et donc, ces gènes sont des gènes qui fonctionnent très bien à l'économie, de façon à avoir un stockage d'énergie qui pourrait lui être utile en cas de famine pour nourrir son bébé.
Oui, on a une alors bonne excuse, en fait, hein, c'est ça.
Oui, mais les gènes restent les mêmes que ceux que nous avions quand nous sommes arrivés sur la Terre.
Oui.
En fait, l'environnement a changé beaucoup plus vite, finalement, que notre génétique. Donc, nous sommes restés avec des gènes qui fonctionnent à l'économe et un tissu gras qui nous habite, alors que pour les hommes, eh bien, l'homme a plutôt pour fonction, et ça, c'est valable dans la nature avec les mâles, et donc l'homme, c'est aller chercher la nourriture. Donc, l'homme a plutôt besoin d'être musclé et d'avoir un peu de gras, alors que la femme, naturellement, physiologiquement, est prédisposée pour avoir un peu plus de gras, soit 20-25% du poids de son corps, ce qui fait 10 à 15 kilos, qui sont d'ailleurs, parce qu'on pourrait se dire, mais où sont-ils?
Ah, moi je sais, je les vois. J'entre presque plus dans le siège de mon fauteuil d'Europe 1 habituel.
Oh,
donc, vous voyez.
Ah, ben ça, c'est l'effet délétère du confinement, mais vous arriverez à les perdre.
Voilà. Oui, j'en suis sûre.
Voilà, le gras juste arrivé sera le gras facile à partir. Mais quand il est en quantité suffisante et nécessaire, ce gras est extrêmement utile. Parce qu'il sert de stockage d'énergie, on l'a vu, c'est l'élément qui stocke le plus d'énergie sous le plus petit volume, puisque 1 gramme de graisse peut stocker 9 calories. Voilà. Donc je vous laisse imaginer le nombre de calories que représentent 10 kilos de graisse dans notre corps. Ça nous permettrait, en gros, de tenir une quarantaine de jours.
C'est pour ça que
jeûnant.
J'ai chaud aux cuisses, là. J'ai beaucoup de calories chaudes.
Oui, alors justement, les femmes ont un peu plus de graisse au niveau des cuisses, car cette graisse au niveau des cuisses est très sensible aux hormones sexuelles, et c'est la réserve de graisse qui est prévue pendant la grossesse pour donner un petit coup de calories supplémentaires.
D'accord.
Si besoin était pour le développement du bébé. Bon, mais en ce qui concerne les rôles du gras, ça n'est pas seulement du stockage d'énergie. C'est aussi un organe qui communique beaucoup avec les autres organes, qui communique avec le cerveau, car c'est le gras qui gère.
Parce que le gras, il est intelligent alors en plus.
Ah,
là, finalement, on voit plus du tout les choses de la même façon à présent.
Ah mais absolument, il est même sympathique ce petit Robert là. Il est très sympathique, il est attachant, il raconte des choses très sympas. Et effectivement, ce gras communique avec le cerveau, avec le microbiote, avec le foie, avec le cœur. Et au niveau du cerveau, le gras intervient dans nos sensations de satiété et de rassasiement. C'est-à-dire que quand le gras se développe un peu trop, il envoie un messager qui est la leptine au cerveau. La leptine arrive, frappe à la porte et dit « Eh oh les petits gars au niveau du cerveau, il serait peut-être temps de se calmer un petit peu sur la nourriture parce qu'en bas, ils ont ce qu'il faut, question calories. » <voyez ? rire> Donc c'est génial, c'est un organe qui s'auto-régule lui-même. Voyez
et qui est intelligent, bon. on vient de le découvrir. Docteur,
ah,
oui. Oui, attendez, et je vais donner la parole à Dr Jimmy Mohamed qui voulait vous poser une question.
Oui, Dr Plumet, du coup, je vais pouvoir dire à ma femme que le petit Robert que j'ai autour du ventre sert à ma survie et donc peut-être que je serai tranquille. Mais justement, le Robert, là, le gras, là, il vient d'où? Essentiellement de l'alimentation, c'est nous qui le fabriquons?
Alors, d'abord, il existe de nous-mêmes, hein, puisque on a vu que c'était un organe. Donc, quand on vient au monde, les bébés, vous avez vu, ils sont très dodus. Hein, et ce gras, il va rester. Alors après, on peut l'alimenter ou au contraire le faire maigrir, hein, ce tissu adipeux. On le fait maigrir si on bouge beaucoup et qu'on mange pas assez, ou au contraire, on l'hypertrophie en mangeant trop. Et alors, effectivement, ces cellules qui ont la capacité d'augmenter de 15 fois leur volume, eh bien, ce volume qui va augmenter va l'être pour plusieurs raisons. La première et la plus courante, c'est le fait de manger trop, trop gras, trop sucré. Ça, c'est malheureusement le comportement habituel des Français. À ceci s'ajoute un trop faible niveau d'activité physique. Donc, on avale beaucoup de calories et on n'en perd pas assez. Or, le gras, tous ces milliards d'adipocytes, sont en balance perpétuelle. Le soir, il y a un petit comptable qui fait les comptes, qui fait le compte des calories rentrées dans la journée et des calories dépensées. si vous avez dépensé moins de calories que vous n'en avez mangé, eh bien, le comptable va les stocker. Et hop, tout ceci va rentrer dans les adipocytes qui vont augmenter leur volume. Mais pas que, puisque les adipocytes ont la capacité de multiplier par 15 leur volume, mais au-delà, si la personne continue de trop manger, elle n'aura pas qu'un simple bourrelet, car le bourrelet va atteindre son maximum.
Un gros Robert, comme le docteur Jimmy Mohamed.
Il en a parlé tout seul,
j'ai le droit. Laurence Plumet, on va s'arrêter quelques minutes, on n'en a pas terminé avec vous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, elle est toujours en ligne avec nous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et auteur du livre Le Monde Merveilleux du Gras aux éditions Erol. Docteur Plumet, ce gras qui nous enrobe, entre guillemets, il s'installe en douceur. Bien souvent, on ne le voit pas, que l'on a grossi. En tout cas, au quotidien, on ne s'en rend pas compte. On commence à le voir véritablement à partir de combien de kilos de gras, je dirais?
Alors, les premiers, à partir de 2-3 kilos, on commence à le voir au niveau du bourrelet. Le bourrelet, c'est le premier arrivé et c'est le dernier parti. Donc ça commence à 2-3 kilos, on commence à voir le petit ventre s'arrondir et les cuisses s'épaissir un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, comme je le disais, si on continue de grossir, parce qu'on mange trop et qu'on ne se dépense pas assez, eh bien ce petit bourrelet va trouver finalement un maximum de volume au-delà duquel il ne peut pas aller. Et donc il va recruter à l'intérieur du ventre des cellules qui sont les adipocytes de la mauvaise graisse profonde et qui, eux, vont prendre le relais. Et ce sont ces adipocytes qui vont devenir énormes, qui relarguent dans la circulation pas mal de gras et qui vont faire le lit de toutes les complications que l'on connaît de l'obésité, à savoir le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on n'a qu'un petit bourrelet, en général, il y a 2, 3, les 4 kilos grand maximum de petits bourrelets, c'est peut-être pas beau esthétiquement,
mais c'est
une graisse qui est utile pour les raisons que nous avons vues avant, mais malheureusement qui part assez difficilement avec un régime hypocalorique et de l'activité physique. En revanche, la graisse qui est profonde, et ça c'est la bonne nouvelle, la mauvaise graisse profonde, celle qui repousse les abdominaux et qui fait ce gros ventre un peu dur, où toute la graisse se trouve localisée au-dessus.
Celle qui nous fait finalement enfler, c'est plus juste un bourrelet, là on enfle.
Voilà, c'est ça. Le bourrelet on l'attrape à la main, et alors que la graisse abdominale profonde, elle distend le ventre, elle donne un ventre rond et souvent dur.
C'est d'ailleurs, ça se frappe tout à la main, c'est bon, je crois.
ça ne s'attrape plus. Alors, c'est assez typique des hommes. Très souvent, ils développent de la graisse profonde en quantité importante. Alors que chez les femmes, on est plutôt bourrelet jusqu'à la ménopause. Et après la ménopause, étant donné qu'il n'y a plus d'hormones sexuelles, enfin les estrogènes, les estrogènes protégeaient du développement de la graisse profonde jusqu'à 50 ans. Et quand il n'y a plus d'estrogènes après 50 ans, malheureusement, cette graisse abdominale profonde à se développer et le ventre des femmes passé la cinquantaine commence à ressembler à celui des hommes, c'est-à-dire qu'il s'arrondit autour du nombril. Ouais.
Docteur Jimmy Mohamed.
Docteur Laurence Plumet, peut-être qu'on va pouvoir partir un petit peu en vacances cet été, mais moi j'aimerais bien quand même perdre un peu de gras. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que si je m'arrête de manger, peut-être que ça marche? Est-ce que la restriction est suffisante?
Je précise qu'il n'a pas la grosse graisse abdominale, je le vois enfin pour la première fois depuis 3 mois. Des bourrelets qui s'attrapent à la main, ça va.
Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, d'abord, avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ne jamais se précipiter sur un régime sévère, restrictif, déséquilibré, où on arrête de manger des pans entiers de son alimentation. On se cantonne juste de viande ou que de légumes ou des cures de soupe, bref, ou des jus de citron à gogo, enfin bon bref. Ces régimes très restrictifs sont insuivables sur le long terme, font maigrir très vite, mais il faut savoir que quand le corps est en déficit calorique, il va d'abord appeler à la rescousse les cellules musculaires. Donc c'est le muscle qui va trinquer en premier.
Mais c'est pas ça qu'on veut perdre. Ouais.
Mais bien sûr. Ouais. Donc plus les gens maigrissent vite, par exemple, imaginons 3 ou 4 kilos dans le mois, plus ils auront maigri vite, plus ils auront perdu du muscle et peu de gras. Sur 4 kilos très vite perdus, sur 3 semaines, il y en aura 2 en muscle et 2 en gras. Mmh. Alors, le problème, c'est qu'au passage, on aura modifié ses métabolismes. Ah oui, on a habitué le corps à ne pas recevoir de calories, c'est comme nous. Si demain on nous dit qu'au magasin il n'y aura plus rien, on va se précipiter pour stocker. Mmh. Pareil pour le corps humain. Il voit arriver très peu de calories, il se met en situation de réserve. Voilà, donc il baisse ses propres dépenses. Alors la personne fait son régime, elle est contente, elle voit que sur la balance elle a perdu, elle ne se doute pas qu'elle a perdu du muscle. Ensuite elle arrête parce qu'elle n'en peut plus de faire ses régimes complètement aberrants. Elle remange comme avant, elle reprend les kilos qu'elle a perdus parce qu'au passage... Elle a baissé ses propres dépenses et en plus de ça, elle reprend que du gras et pas du muscle.
Oh là là,
donc,
oui.
toutes ces personnes obèses que je vois qui font le quotidien de mes consultations sont des femmes qui, au début, n'avaient que quelques kilos à perdre
et elles
sont devenues obèses à force d'avoir suivi des régimes. Mmh. Les régimes restrictifs, ça fait grossir, il faut que les gens le réalisent.
Alors, comment on le perd, ce gras, efficacement, sans justement aggraver les choses, au contraire? Donc, ce n'est pas un régime restrictif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre les bourrelets, encore une fois, hein,
pas... Oui, il faut associer deux choses. Deux choses. La première, d'abord, il faut faire un audit, hein, parce que chacun a des raisons différentes de prendre du poids. Il y a ceux qui sont sucrés, ceux qui sont salés. Déjà, on comprend ce qui ne va pas dans notre alimentation. Où est-ce que je mange trop? Pour moi, c'est le grignotage, ce sont les repas qui sont trop copieux, je mange des chips, je mange tout le temps des frites, je prends beaucoup de biscuits, je mange des bonbons, je me tape une demi-plaquette de chocolat. Bref, il faut d'abord s'auditer. Et ensuite se dire, je vais diviser par deux déjà tous mes écarts. Il ne s'agit pas de tomber dans la restriction sévère, parce qu'on sait que ça mène à rien, mais au moins déjà diviser par deux.
La moitié du pot de Nutella, ça suffit, Jimmy, pas entier.
Ensuite, très important, partager l'assiette entre les féculents et les légumes, et le faire aussi bien à midi que le soir. Enfin, troisième point très important, alors évidemment boire de l'eau, hein, pas de boisson sucrée, le soir, manger léger. C'est vraiment le secret de la perte de poids.
Vous avez dit des légumes et des féculents, il n'y a plus de protéines dans l'assiette, on ne mange pas de viande, de poisson?
Alors, quand je dis manger léger, c'est une bonne part de viande ou de poisson ou de œufs, une bonne assiette de légumes, un petit peu de féculents ou un petit morceau de pain, mais on se calme sur les féculents qu'on réservera plutôt à midi. Et on ne prend pas de dessert sucré. Et le soir, on oublie le pain, le fromage et le verre de vin, hein, mais on est plutôt sur le yaourt nature et le fruit frais.
Et le yaourt nature, j'ai le droit de mettre un peu de miel dedans quand même?
Oui, bien sûr.
C'est gentil,
une petite pointe de miel, faites-vous plaisir.
Nature, moi, j'ai
mais vous savez, on est à l'époque des fraises, pêches. Franchement, dans un bol, vous mettez du yaourt ou du fromage blanc. Vous mettez dedans vos fraises, voilà, avec un petit chouïa de sucre si vous voulez, mais vous avez un dessert sublime. Voilà. Donc, il faut faire ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le soir, à la nuit, on dort, tout le monde le sait, et donc on ne dépense que 500 calories. Donc, si on ne veut pas grossir la nuit, il faudrait ne pas dépasser 500 calories au dîner. Et je peux vous assurer que ceux qui prennent un verre de vin rouge, un peu de charcuterie, du pain, du fromage, un plat en sauce, ils sont à 1000-1200 calories. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent de grossir, ils vont grossir la nuit.
D'accord, bonsoir.
Bon, et alors, à ceci, activité physique obligatoire. Donc, j'entends par là, je ne dis pas forcément faire du sport, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont allergiques au sport et qui n'en ont pas fait depuis longtemps. Ce serait une aberration. Et d'ailleurs, je le dis au passage pour ceux qui ont pris du poids pendant la période de confinement, ne vous précipitez pas pour aller faire 15 minutes de vélo à tout casser. C'est très mauvais pour le cœur. Vous risquez des problèmes cardiaques. Le cœur n'a pas été habitué à cet effort-là pendant deux mois et demi.
Ouais.
Donc, il faut y aller mollo. Alors, deux choses.
Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
L'activité physique, je sais je parle beaucoup, mais j'essaie d'être utile dans ce que je dis. L'activité physique, une heure de marche tous les jours, voilà. Ou alors, si on a un vélo chez soi ou un elliptique, on fait une heure d'elliptique, mais tranquille, on peut presque parler en le faisant.
D'accord.
Là où on commence à taper dans le gras, c'est à partir de 45 minutes d'effort doux à modéré.
Bon,
Et on va greffer là-dessus, deux ou trois fois par semaine, des séances de développement musculaire pour augmenter sa masse musculaire et ainsi augmenter ses dépenses énergétiques par le métabolisme de base.
On va être obligé de s'arrêter là, Laurence Plumet, mais on vous réinvitera parce qu'on a encore plein de choses à dire. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Et donc, je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui voudraient en savoir plus, Le monde merveilleux du gras, aux éditions Erol. Merci beaucoup.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, avant le week-end, nous accueillons en ligne notre sexologue et psychanalyste Catherine Blanc. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux. Alors ça y est, vous voilà.
Oui, vous nous manquez. Bientôt, vous serez à nos côtés aussi. Alors Catherine, on va continuer encore une fois à distance, mais on est très heureux de vous entendre avec la question sexo du jour qui est posée par un homme qui s'appelle Axel. Je suis avec ma copine depuis 7 mois, dit-il. Sur le plan sexuel, je suis toujours un peu frustrée car j'aime faire l'amour de façon bestiale, voire brutale, mais j'ai peur de la choquer. Comment m'y prendre pour qu'elle accepte mon fantasme? Catherine, de façon générale, est-ce que l'agressivité, ça fait partie de la sexualité?
Oui, alors mais on va modérer le terme agressivité, c'est-à-dire que la sexualité est un élan très animal, très primaire, très archaïque d'une certaine manière. C'est un élan fantasmatiquement où on désire posséder l'autre manger l'autre, si je veux employer des mots forts comme cela. Il y a quelque chose de l'ordre de prendre l'autre à soi, être l'objet de son besoin, plaisir, de son fantasme, etc. Ceci étant, tout cela se passe très bien et de façon très merveilleuse dans la mesure où ce sont des choses qui sont partagées et qui n'ont pas lieu pour autant d'ailleurs de faire du mal. Quand on dit animalité, bestialité, manger ou posséder, c'est avec des mesures différentes, des espaces différents selon comment on peut le percevoir chacun. Et ce qui est inquiétant, c'est cette question de comment faire pour qu'elle accepte mon fantasme. Le but, c'est pas d'être accepté, de faire accepter un fantasme, c'est de faire part d'un fantasme et peut-être de laisser l'autre s'exprimer.
Et si elle en a envie,
si
aussi,
l'autre,
ouais.
Voilà, parce que si ça se trouve, elle-même est dans ce désir, mais bien,
mais elle
bien
ose pas
incapable
le dire,
de l'exprimer. Voilà.
Donc l'accès, c'est la communication, ouais, c'est ça.
Oui. Toujours. C'est-à-dire que c'est pouvoir dire les choses en disant moi j'aimerais que ça soit un peu brusque, un peu plus ceci, un peu plus cela, et peut-être que il y a une confusion pour elle entre brusquerie et sentiment, comme si le sentiment ne pouvait pas être brusque, alors qu'un sentiment, quand on dit à un enfant par exemple oh, je t'aime tellement, je vais te manger, vous voyez bien qu'il y a quand même une certaine brusquerie, puisque le je t'aime tellement, ça irait jusqu'à l'idée de pouvoir complètement absorber l'autre.
Docteur Dimi Mohamed.
Est-ce que cette façon un peu bestiale, alors on ne parle pas d'agressivité vraiment, hein, est-ce que ça procure autant de plaisir chez un homme ou chez une femme, ou c'est quelque chose qui est plutôt masculin avec le rapport de domination, ou pas spécialement ?
Pas spécialement, parce que une femme, c'est-à-dire que le problème, c'est que la pornographie a donné cette image assez déséquilibrée de la brusquerie ou de l'animalité dans la sexualité, avec tiens prends ça, et avec une domination très forte masculine sur un féminin complètement soumis. La réalité, c'est que le désir ardent féminin est aussi important, l'envie aussi d'être prise, l'envie aussi de pouvoir exprimer l'émotion et le plaisir ressenti jusque dans des râles ou des cris est aussi fort de part et d'autre. Le besoin de serrer, d'empoigner l'autre peut être aussi fort chez l'un et chez l'autre. Ceci étant, encore une fois, on a toujours l'idée que l'homme étant plus fort musculairement, on a l'idée de la pornographie, donc de cette espèce de déséquilibre, et comme si les femmes étaient des oies blanches qui est toute fragile, qu'on allait briser entre ses bras. Évidemment, tout est une question de proportion, de respect de l'autre, de considérer l'autre, mais les femmes sont tout aussi fortes dans la puissance de leur désir.
Dimi Mohamed ?
Après, il y a peut-être une limite, un bon dosage. Quand est-ce qu'on sait que si ça va trop loin, je ne sais pas, est-ce que la douleur, alors c'est bizarre ce que je vous dis, mais est-ce que la douleur peut faire partie du plaisir ?
Alors, on pourrait répondre non, mais bien sûr qu'il y a quelque chose pour certains, le fait d'avoir mal, c'est pas mal au sens d'ailleurs d'une douleur comme d'une blessure, c'est quelque chose de fort. Par exemple, si on fait du sport, on dit un vrai sportif, il va jusqu'à se faire mal. Et c'est pas qu'il vient éclopé, c'est que il pousse son muscle, il pousse son souffle, il pousse son cœur jusque dans des retranchements qui lui font se sentir vivant. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se faire dans la sexualité. Mais attention que mon propos ne soit pas détourné. C'est-à-dire que on ne me fasse pas dire que les femmes aiment ça. Comme encore une fois, la pornographie. Il n'y a, pour savoir la limite, c'est à chacun d'exprimer sa limite.
Donc encore une
c'est
fois, la communication,
pas
hein, Catherine,
non,
c'est
pas,
ça.
Non, pas cette condition-là, bien sûr, surtout. Sinon, on ferait de ce discours que nous avons là tous les trois une invitation à l'utilisation du corps féminin pour la brusquerie d'un homme qui la pénètre et la possède. Et ça, certainement pas.
Certainement pas, on a bien compris. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci beaucoup Jimmy. On se retrouve bien sûr lundi à 15h en studio. N'oubliez pas, si vous avez une question, vous nous la laissez bien sûr sur le répondeur d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes d'euros la minute. On y répondra dans l'émission. À présent, je vous laisse.